Dans son ouvrage « Les mille et un fantômes », Alexandre Dumas écrit d'un bandit qu'il ne craignait ni Dieu ni diable, et prétendant que la société était mal faite, il était envoyé sur la terre pour la corriger. Rien que ça. Ne craindre ni Dieu ni diable est une locution verbale qu'on trouve essentiellement dans la bouche des personnes dont l'arrogance frise celle de Satan lui-même. Par contraste, les Écritures nous ordonnent de craindre à la fois Dieu et le diable. Dieu, parce qu'il est le Seigneur de toute la terre et de l'univers et que le devoir de tout homme est de le révérer. Mais nous devons également craindre le diable parce qu'il est extrêmement dangereux. En effet, comme il est la méchanceté personnifiée, il cherche par tous les moyens à tromper les hommes afin qu'ils n'aient pas foi en Jésus-Christ. Je continue à lire dans le chapitre 4 de l'épître de Jacques. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. Prenez conscience de votre misère, et soyez dans le deuil, pleurez. Que votre rire se change en pleurs, et votre gaieté en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur, et il vous relèvera. » Verset 7 à 10. Ce passage se compose d'une série de 10 ordres au mode impératif. Ici, Jacques est très directif. Il ne mâche pas ses mots et emploie un langage musclé. Il appelle ses lecteurs « pécheurs », un mot qui est toujours utilisé à l'encontre des non-croyants. Il essaye de les secouer de leur torpeur spirituelle en les sommant de se repentir et de se soumettre à Dieu en la personne de Jésus-Christ. L'appel à la repentance est fréquent dans les Écritures. Par exemple, dans l'imposant discours qu'il a donné sur la grande place d'Athènes, l'apôtre Paul a dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. » Et ailleurs, il écrit « Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Et l'apôtre Pierre dit aussi que Dieu use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Le premier impératif de Jacques est « Soumettez-vous donc à Dieu ». Ce verbe est un terme militaire et à la forme passive. Il signifie « Soyez résolument subordonnés, prêtez volontairement obéissance ». On le rencontre souvent dans le Nouveau Testament. Pour être sauvé et recevoir la vie éternelle, il est indispensable de se soumettre à l'autorité souveraine de Dieu. Jésus a dit « Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra, et celui qui l'aura perdue à cause de moi la retrouvera. » Le second impératif est « Résister au diable et il fuira loin de vous. » Le mot pour « résister » signifie « prendre position contre, s'opposer à ». Précédemment, Jacques a dit que l'amitié pour le monde en tant que système de valeurs et de mœurs orientées vers la satisfaction du « moi » est fondamentalement opposée à Dieu. Mais celui qui choisit de s'en détourner renonce également à Satan parce qu'il est le prince de ce monde. Prendre position pour le Seigneur, c'est refuser le péché, la mondanité et le diable. Satan a tenté Jésus dans le désert, mais comme le Seigneur lui a tenu tête, il l'a quitté. Pareillement, il s'éloignera de ceux qui résistent à ses tentations. Le diable peut être vaincu quand on utilise contre ses sollicitations la parole de Dieu ainsi que les autres armes spirituelles dont l'apôtre Paul donne la liste. Le troisième impératif de la série est « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Dieu ne s'impose pas. Il ne s'approchera de moi que si je le veux bien. Mais plus je suis proche de lui et plus le diable garde ses distances parce qu'il n'aime pas la présence du Seigneur. Le loup n'attaque pas la brebis tant qu'elle est avec le troupeau et en compagnie du berger. Plus elle est proche de lui et de son bâton, et plus elle est en sécurité. Sous le régime de l'Ancienne Alliance, s'approcher de Dieu signifiait l'invoquer avec sincérité dans un esprit d'humilité et de contrition. Quand le roi David a donné le pouvoir à son fils Salomon, il lui a dit « Apprends à bien connaître le Dieu de ton père et adore-le d'un cœur sans partage et d'un esprit bien disposé, car l'Éternel regarde jusqu'au fond des cœurs et il discerne toutes les intentions. » Si tu t'attaches à lui, il interviendra en ta faveur, mais si tu te détournes de lui, il te rejettera pour toujours. Et l'Éternel dit, vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Dans le Nouveau Testament, l'auteur de l'Épître aux Hébreux exhorte ses lecteurs juifs disant, approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance, là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Et l'apôtre Paul a dit aux Athéniens, « Dieu invite les hommes à le chercher et à le trouver, comme attend-on ?» Lui qui n'est pas loin de chacun de nous. Le quatrième impératif est « Nettoyez vos mains, pécheurs ». Comme je l'ai déjà dit, le mot pour pécheur s'emploie uniquement pour les incroyants aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. À l'origine, le commandement de se nettoyer les mains faisait partie des prescriptions cérémoniales de la loi de Moïse. Il s'adressait aux prêtres avant qu'ils ne se présentent dans le temple pour offrir des sacrifices à l'Éternel ou pour faire leur devoir. Dans les Écritures, cette expression est souvent utilisée au sens figuré et veut dire se purifier du mal qu'on commet en se repentant et en le confessant à Dieu. Après « Nettoyez vos mains pécheurs », le cinquième impératif est « Purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé ». Nettoyer et purifier sont deux verbes qui se rapportent à la purification rituelle de l'Ancien Testament. Ces deux verbes sont en parallèle, ainsi que pécheur et vous qui avez le cœur partagé. Cette phrase est écrite selon le modèle de poésie hébraïque qui répète la même pensée en termes différents. Ici, les fautes extérieures, représentées par des mains sales, sont associés à des péchés intérieurs qui sont présents dans un cœur partagé. Le mot pour partager veut littéralement dire avec deux âmes. Ce mot n'est utilisé que par Jacques et deux fois. Il décrit un hypocrite, quelqu'un qui essaye de boire à plusieurs abreuvoirs à la fois ou à manger à plusieurs râteliers à la fois. Ça me fait penser à ces gens qui se disent de confession protestante, mais qui acceptent volontiers les sacrements de la foi catholique au cas où, sait-on jamais, mieux vaut être prudent et assurer ses arrières, et ça ne peut pas faire de mal. Eh bien si, justement, Jésus a dit « Nul ne peut servir de maître, et que celui qui n'est pas avec moi » est contre moi. Il faut donc choisir. Les trois impératifs suivants sont « Prenez conscience de votre misère, soyez dans le deuil, pleurez ». Ces verbes se suivent sans autre précision. Le premier veut dire « Se sentir misérable devant Dieu » et il n'est utilisé qu'ici dans le Nouveau Testament. Cependant, il décrit bien l'état du collecteur d'impôts qui, raconte Jésus, se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en murmurant « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis !» Non seulement le pécheur est conscient de sa misère, mais il prend le deuil, c'est-à-dire qu'il éprouve un remords profond et même du chagrin, comme lorsqu'on se lamente sur la mort d'un membre de sa famille ou d'un ami. En troisième position vient le verbe « pleurer », qui est la manifestation visible d'un sentiment intérieur, la misère et le deuil. C'est ce que l'apôtre Pierre a ressenti quand, après avoir renié le Seigneur, il entendit le coq chanter. « Alors, dit le texte, Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit, Avant que le coq ne chante deux fois, tu m'auras renié trois fois. » Et il fondit en larmes. Pierre a versé les larmes amères de la repentance. Le neuvième impératif est que votre rire se change en pleurs et votre gaieté en tristesse. Comme précédemment, cette phrase se présente sous la forme d'un parallélisme poétique qui exprime la même vérité sous deux formes différentes. Jacques ne condamne pas le rire et la gaieté, mais plutôt l'attitude désinvolte et mondaine qui se plaît dans les divertissements malsains et les plaisanteries grossières. Le mot grec rendu par rire se retrouve dans les béatitudes de Jésus quand il dit « Heureux vous qui maintenant pleurez, car vous rirez. Malheur à vous qui maintenant riez, car vous connaîtrez le deuil et les larmes. » Le dixième et dernier impératif du passage est « Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera. » La soumission au Seigneur est la seule attitude juste et acceptable que l'homme doit adopter parce que Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Le mot pour « abaissez-vous » décrit l'humiliation volontaire de quelqu'un qui a pris conscience de son péché, de sa culpabilité devant Dieu et qui reconnaît qu'il n'a strictement rien à lui offrir car il est démuni de tout mérite personnel. Dieu honore une telle démarche. Il a déclaré à Salomon « Si mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie, prie et recherche ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. » Je continue l'épître de Jacques. « Frères, ne vous critiquez pas les uns les autres. Celui qui critique son frère ou qui se fait son juge, critique la loi et la juge. » Verset 11. Que les mécréants disent du mal des fidèles du Seigneur, cela n'a rien de surprenant. D'ailleurs, Jésus et les apôtres avaient averti les disciples qu'il en serait ainsi. Mais que les croyants se critiquent entre eux ou se chipotent par pure méchanceté est inexcusable. Une telle attitude est incompatible avec l'esprit d'humilité qui doit caractériser ceux qui font profession de foi en Jésus et qui sont appelés à s'aimer et à se soutenir entre eux. Critiquer son frère sans raison sérieuse, c'est s'élever au-dessus de lui et devenir son juge. Le mot pour juge ne signifie pas évaluation, mais condamnation. Le mot pour critiquer n'apparaît qu'ici et dans la première épître de Pierre. Il signifie propos stupide, inconsidéré, irréfléchi, désobligeant et faux. Critiquer les autres pour le plaisir est une calomnie et une faute grave, et pourtant, elle ne figure pas dans la fameuse liste des sept péchés capitaux que les moines de l'époque médiévale ont compilés. De toute évidence, médire est tellement répandu qu'on ne le remarque même plus. Pourtant, Jésus a sévèrement mis en garde ses contemporains quand il leur a dit « Ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamnés. » Car vous serez condamné vous-même de la même manière dont vous aurez condamné, et on vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer les autres. Celui qui critique son frère ou qui se fait son juge, dit Jacques, critique la loi et la juge. En effet, selon l'enseignement de Jésus, la loi se résume à aimer Dieu et son prochain. Sous le régime de la Nouvelle Alliance où nous sommes aujourd'hui, les lois spécifiques à Israël en tant que peuple élu et nation, ainsi que les lois rituelles et cérémonielles du système lévitique de l'Ancien Testament, ont été abrogées. Pour nous, la loi de Dieu consiste à observer la partie morale des Écritures, Ancien et surtout Nouveau Testament. Comme la calomnie et la médisance enfreignent le devoir d'aimer mon prochain, c'est une attaque qui est dirigée d'une part contre la personne que je critique et d'autre part contre la loi de Dieu. En agissant ainsi, je m'élève au rang de juge. Si par exemple je me permets de condamner une des lois votées par le Parlement, c'est que je me donne le droit de la juger. Mais j'en ai parfaitement le droit si elle est contraire à l'enseignement des Écritures, parce qu'elle est déjà condamnée de facto par Dieu. Par contre, ce serait pure arrogance de ma part, et même un acte blasphématoire, que de critiquer ou mépriser une loi morale de Dieu, quelle qu'en soit la raison. C'est pourtant bien ce que je fais quand je dis du mal de mon frère que la loi de Dieu m'ordonne d'aimer. Je continue le texte. Mais si tu juges la loi, tu n'es plus celui qui lui obéit, tu t'en fais le juge. Or, il n'y a qu'un seul législateur et juge, celui qui peut sauver et faire périr. Mais pour qui te prends-tu, toi, qui juge ton prochain? Versets 11 et 12. Littéralement, le texte dit « Un est le législateur et le juge ». Dieu est le seul ordonnateur de toutes les lois morales et physiques qui gèrent l'univers. Lui, et seulement lui, est au-dessus de toutes les lois et a le droit de les modifier ou de les annuler comme bon lui semble. Le mot pour « législateur » est un nom composé qui n'est utilisé qu'ici dans le Nouveau Testament et qui veut dire « celui qui met la loi en place ». Non seulement Dieu est juge, mais il applique la loi. Or, elle condamne tous les hommes sans exception, ce que Jacques a déjà dit précédemment. Heureusement pour nous, dans sa grâce, Dieu accorde le pardon et la vie éternelle à tous ceux qui s'humilient devant lui et acceptent Jésus comme leur sauveur. Jacques reprend ses lecteurs, leur disant « Mais pour qui te prends-tu, toi qui juges ton prochain ?» Ceux qui disent du mal d'autrui montrent par là qu'ils ont une opinion bien trop élevée d'eux-mêmes. Dans une de ses épîtres, l'apôtre Paul écrit « Ne soyez pas prétentieux, n'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre, tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même. » Fin de citation. Je continue le texte. « Et maintenant, écoutez-moi, vous qui dites « Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. » Verset 13. L'interjection traduite « et maintenant » n'est utilisée que par Jacques et deux fois. Son but est de piquer la curiosité des lecteurs afin qu'ils redoublent d'attention. Ici, il s'attaque aux hommes d'affaires ambitieux, typiques, qui établissent des plans sans tenir compte de Dieu. Ce genre d'homme est sûr de lui, et sait ce qu'il veut, mais son tort est de ne penser qu'à travailler pour son compte personnel. L'illustration choisie par Jacques est tout à fait appropriée, parce que dans le monde antique, comme aujourd'hui d'ailleurs, bon nombre de Juifs étaient des marchands itinérants prospères. « Nous y ferons des affaires » est un nom composé qui pourrait être traduit par « qui entre et conclut des affaires ». Il faut bien voir que Jacques ne s'attaque pas au mobile des hommes d'affaires, qui est de réussir et faire un profit. En fait, leur projet est tout à fait louable, à un gros détail près. Jacques leur reproche d'évacuer Dieu de leur vie professionnelle. Ils choisissent en fonction d'eux-mêmes et de considérations purement commerciales, le moment propice où ils vont aller, la durée de leur séjour, ce qu'ils vont faire, et leur objectif final qui est de faire du fric. Ils ne veulent pas tenir compte des imprévus toujours possibles, et se comportent comme s'ils étaient tout-puissants et invulnérables. Cette attitude hautaine, « je suis le seul maître à bord et le capitaine de ma destinée » fait penser à une parabole de Jésus où il est justement question d'un homme d'affaires de ce gabarit. Jésus raconte « Le domaine d'un riche propriétaire avait rapporté de façon exceptionnelle. L'homme se mit à réfléchir. « Que faire ?» se demandait-il. « Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. »« Ah !» se dit-il enfin, je sais ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers pour en construire de plus grands, et j'y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Après quoi, je pourrai me dire, mon ami, te voilà pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. Mais Dieu lui dit, pauvre fou que tu es, cette nuit même tu vas mourir et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter? Voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu. Fin de citation. Le capitalisme sauvage, qui a pour règle la loi de la jungle, a très mauvaise cote à la bourse du royaume des cieux.